Bertrand Sajalioli, ici présent, va nous faire une présentation d'une question intéressante, épineuse, problématique, mais il en fera plus, hein, après la communication pour lui, bien évidemment, sur les liens entre écologie et religion. Alors Bertrand est enseignant-chercheur, maître de conférence de géographie à l'Université d'Orléans et membre du laboratoire de recherche CEDET, qui signifie
Centre d'études sur les territoires et l'environnement.
Merci Bertrand.
Et sur le développement, le
sur le développement, voilà. Et il travaille sur un certain nombre de choses qui touchent aux questions de représentation de l'espace. Il a longtemps travaillé, il travaille sans doute encore aujourd'hui sur la représentation des zones humides, notamment à travers la littérature. Mais pas uniquement. Et là, il entame depuis un certain temps déjà des réflexions basées sur des recherches et de l'analyse textuelle, notamment sur la question de la prise en compte ou de la représentation de l'écologie et de l'environnement de manière plus générale, voire de la nature, dans un certain nombre de textes qui relèvent de la religion catholique, entre autres. Voilà, je te remercie Bertrand et à toi la parole.
On peut peut-être ajouter que les éléments qui vont être présentés aujourd'hui ont déjà été présentés dans des publications, dans les revues
Vertigo.
Vertigo et une revue de géographie.
Oui, les carnets de géographie, et il y a un ouvrage qui sort la semaine prochaine aux presses universitaires Panthéon-Sorbonne qui s'appelle Le Sacre de la Nature. Voilà, merci beaucoup, bonjour nos gens. Alors, une petite question de posture avant de démarrer, puisqu'il y a eu un petit peu de tension, enfin pas tension, une petite discussion autour du titre, et en particulier dans le fait de mettre catholique et de vouloir confronter la religion catholique avec l'écologie et l'éthique environnementale. Alors, à l'origine de ces travaux, il y a le fait que quand je travaillais sur la mise en Natura 2000 de la Sologne, c'était il y a à peu près une bonne dizaine d'années, hein, 10-12 ans. J'étais un jour sur le terrain avec Xavier Pesme, qui est l'actuel directeur du CRPF Île-de-France et Région Centre, et tandis que nous visitions une propriété, tout d'un coup je lui dis bah, tiens, cette propriété elle ne ressemble pas à celle que l'on visite habituellement. Et Xavier, à ce moment-là, me répond, c'est normal parce que le propriétaire est protestant. Et je m'étais dit, tiens, donc, il y a donc une manière différente de gérer sa propriété selon que l'on est catholique ou selon qu'on est protestant. Bon, puis, vous savez, dans tous ces trucs de recherche, c'est un machin qui m'avait trotté dans la tête là, pendant des années, dont j'étais engagé sur autre chose, donc j'avais laissé tomber. Et il y a au début des, enfin en 2009, avec mon collègue et ami Étienne Grésillon, qui est maître de conférence à Paris Diderot, on a organisé un colloque qui s'appelle le Sacre, enfin Sacré Nature, hein, les paysages du sacré, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair entre les liens qu'il peut y avoir entre un engagement spirituel et une manière de gérer la nature. Et donc, moi, ma posture, elle est très géographique, enfin très biogéographique, puisque je suis biogéographe de formation. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en quoi quelqu'un qui est engagé dans une spiritualité, quelle qu'elle soit, et là, il se trouve que je travaille sur quand même la spiritualité qui est dominante chez nous, qui est le catholicisme, dans la mesure où on est engagé, où quelqu'un est engagé dans sa foi, dans une spiritualité, en quoi il va, qu'il en est conscient ou qu'il n'en ait pas conscience, en quoi il va gérer son bien, donc sa propriété s'il est propriétaire, sa commune s'il est maire, d'une manière différente que quelqu'un qui ne croit pas ou que quelqu'un qui est engagé dans une autre spiritualité. Donc ma recherche, c'est une recherche de géographe, et à la limite, je peux maintenant, quand je me promène en Sologne, puisque j'ai travaillé sur des grands propriétaires soloniaux, vous le verrez tout à l'heure à la deux diapos à la fin de cette conférence. Quand je me promène en Sologne, au bout de 20 minutes de terrain ou une demi-heure de terrain dans une propriété, j'arrive à dire, sans pratiquement me tromper, si le propriétaire est un catho pratiquant ou s'il n'est pas un catho pratiquant. J'arrive à discerner ce que je pourrais appeler des groupements végétaux catholiques par rapport à d'autres. Et c'est donc dans cette posture-là que je me mets, et non pas dans une posture de croyant. Je ne suis pas, enfin, et je suis presque embêté finalement de devoir me justifier pour dire que je suis ni croyant ni pratiquant, hein, et que ma posture est uniquement scientifique, géographique, hein, pour comprendre quels peuvent être les moteurs, hein, ça s'inscrit dans un courant qu'on appelle la géographie culturelle, pour comprendre quels sont les moteurs culturels qui vont amener à façonner, à modifier, à créer du paysage, et ici du paysage naturel. Alors, cette mise au point est en fait, hein, ce qui est assez étonnant en ce moment, c'est de voir que toutes les religions du monde, hein, que ce soit la religion chrétienne, mais aussi l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, et a fortiori beaucoup de religions animistes, hein, toutes les religions du monde ont pris position sur les grands enjeux du développement durable. Alors, je suis simplement allé, j'ai pris la dernière messe du développement durable, hein, la conférence de Rio, Rio plus 20, en 2012, où vous, il y avait à la fois, hein, comme en 92, la conférence officielle qui était ouverte au chef d'État, et également le sommet des peuples, hein, qui était le forum alternatif de la société civile. Et au sein de ces deux scènes sociales, ben, le sacré a fortement imprégné les discours environnementaux. Hein, donc, vous voyez, les Indiens ont été extrêmement présents, et ils étaient présents à la fois, hein, là ce sont des Indiens amazoniens, à la fois pour défendre leurs droits, mais pour défendre aussi une conception religieuse qu'ils ont de la nature. Alors, quand on regarde dans la conférence officielle, hein, la Pachamama, la terre-mère, a été évoquée quand même par deux chefs d'État, Evo Morales, le président de la Bolivie, et par Rafael Correa, le président de l'Équateur. Ces deux faisant dûment référence à une loi, hein, la loi de la terre-mère, hein, qui a notamment été adoptée par la constitution équatorienne. Et vous voyez, elle stipule, hein, ça doit être écrit en tout petit, mais la Pachamama, où se reproduit et réalise, hein, la vie, a le droit à ce que soit intégralement respectée son existence, le maintien et la régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses fonctions et ses processus évolutifs. Alors, au sommet des peuples, hein, donc dans le sommet alternatif, hein, beaucoup de réunions débutèrent par des séances consacrées à la mystique ou par des phases de recueillement qui invoquaient les esprits de la nature ou les ancêtres. Et quand on regarde le titre des ateliers, alors évidemment, je vous en ai mis trois qui sont signifiants, c'est trois parmi une centaine d'ateliers, mais ça m'a paru quand même suffisamment représentatif. Il y en a un qui s'appelait « Base éthique et théologie de la justice climatique », un second « Défense des droits, expérience et défis pour la jeunesse religieuse », et un troisième, la nature du sacré et le sacré de la nature, reconnexion à une terre vivante. Et parallèlement, d'autres Indiens, hein, priaient, faisaient des feux sacrés, hein, pour éclairer les participants vers un engagement en faveur du développement durable. Alors, notre religion du livre, hein, qui est arrivée d'ailleurs assez unie, hein, c'est les instances œcuméniques qui sont arrivées, et non pas ou les catholiques ou les protestants ou les orthodoxes, étaient également très fortement présentes. Hein, on y a lu en particulier un message du pape, hein, et on peut voir que la COE, hein, c'est-à-dire le Conseil œcuménique des Églises, a été très présent et d'ailleurs n'a pas du tout été satisfait des conclusions de Rio plus 20 et a engagé un combat, hein, pour aller plus loin. Et de même que le cardinal Reinhard Marx, hein, archevêque de Munich, qui représentait la commission des épiscopats de l'Union européenne, hein, était présent, a fait un discours, animé un certain nombre d'ateliers et posé la question d'une économie verte et d'un mode de vie durable. Alors, ce qui m'intéresse dans cette présentation, c'est cette mutation des églises chrétiennes, et je ferai un focus sur l'église catholique, hein, qui finalement s'est forgée depuis peu une éthique environnementale, et c'est cette éthique que je vais essayer de suivre. Alors, cette éthique, on en voit trois points. Et d'abord, un intérêt croissant pour les questions environnementales, hein, les textes officiels du Vatican, ou même l'engagement des chrétiens, l'engagement écologique des chrétiens dans la cité est de plus en plus net, hein, un engagement pour la protection de la nature, hein, et une mobilisation des fidèles, hein, pour le développement durable. Et donc, finalement, on assiste au sein de l'Église catholique, hein, un glissement d'une posture spirituelle à une posture politique, hein, l'Église étant de plus en plus présente dans le débat politique. Elle était très représentée dans le Grenelle de l'environnement en particulier. De même qu'un grand nombre de ce qui ont été un peu les héros de l'écologie politique, hein, je pense à Jean-Marie Pelt par exemple, hein, qui est décédé il y a peu, mais qui était le journaliste le plus engagé, le plus connu pour défendre l'écologie, c'est quelqu'un qui est très chrétien, qui n'a jamais fait mystère de son engagement en tant que chrétien. Hein, il a beaucoup écrit d'ailleurs à ce sujet. Alors, ce glissement d'une posture spirituelle et une posture politique a été confirmé il y a très peu de temps, donc il y a à peine un an, hein, le 28 mai 2015, par l'encyclique du pape François, Laudato Si, hein, qui engage très fortement l'Église catholique vers l'écologie globale et intégrale. Et dans cette encyclique, hein, qui a quand même fait un grand bruit en dehors même de la presse catholique, hein, La Croix, Le Pèlerin, etc., hein, parce qu'il y a eu de très grands articles dans Le Monde, enfin dans le... Alors, est-ce que Le Monde est une presse catholique de gauche? Ça, je ne sais pas exactement, hein, mais quand on regarde de près, à un moment, en tout cas, ça l'a été. Mais dans cette encyclique, hein, Laudato Si mi Signore, loué sois-tu mon Seigneur, hein, qui reprend le Cantique des Cantiques de saint François d'Assise, ben, il y a quand même une critique extrêmement violente du monde dans lequel on est, du capitalisme, du mercantilisme, de la financiarisation de l'économie, des multinationales. Et finalement, cette critique, ben, à bien des égards, elle rejoint les critiques politiques des écologistes. Et d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup de catholiques, hein, se réclament du pape, notamment à Notre-Dame-des-Landes. Hein, vous avez un grand comité chrétien qui soutient les insurgés, les rebelles, hein, ou les défenseurs de la nature à Notre-Dame-des-Landes, et qu'ils le font à partir de convictions chrétiennes, du rapport spirituel qu'ils ont à la nature, avec la puissance, hein, que ça peut avoir. Alors, pourtant, cette posture, hein, qui de spirituel est devenue politique, elle est paradoxale. Elle est paradoxale parce que d'abord elle suit les très vives critiques de Lynn White en 1967, qui est un historien, qui est médiéviste, qui ont été publiées dans la revue Science sous le titre « Les racines historiques de notre crise écologique ». Et il affirmait à ce moment-là, enfin il est décédé depuis Lynn White, hein, mais il conduisait une critique extrêmement forte de l'héritage catholique, hein, qui considérait, enfin du christianisme, qui considérait comme la religion la plus anthropocentrique du monde. Et il pensait que c'était la chrétienté qui était responsable de la crise écologique, dans la mesure où elle affirmait le primat de l'homme sur la nature. Donc, vous voyez, c'est finalement dans une position d'accusé, d'une certaine manière, que la chrétienté, hein, a essayé de fournir, s'est construit un argumentaire, hein, pour, en faveur de l'écologie. Deuxième situation, c'est aussi une situation de concurrente, hein, de concurrence, parce que cette nouvelle posture, hein, répond à une sacralisation concurrente de la nature, hein, qui a été développée par l'écologue anglais James Lovelock en 1970 dans l'hypothèse Gaïa, selon laquelle l'ensemble des êtres vivants de la Terre formerait un super-organisme, hein, qu'il appelle Gaïa, du nom de la déesse de la mythologie grecque, hein, qui personnifie la Terre, et qui peut être assimilé à un être vivant et qui serait capable de réaliser l'autorégulation de ses composants pour fabriquer la vie. Et avec Gaïa, Lovelock était lui-même assez mystique, hein, il y a, pas tellement dans son premier bouquin, mais dans son deuxième bouquin, qui est « Hommage à Gaïa », et dans le troisième, hein, il en a écrit cinq au total des années 70, au milieu des années 80, ben, on assiste à un renouveau du sentiment mystique de la Terre-mère, hein, par opposition, hein, aux croyances matérialistes. Et c'est ce culte, hein, du moins cette référence, qui est prônée par les tenants de l'écologie profonde. Et donc tout d'un coup, ben, l'Église, elle s'est sentie obligée, elle s'est dit, ben voilà, il y a une espèce d'animisme qui vient, qui prend du terrain. Et donc, vous voyez, elle était à la fois accusée et dans une position de concurrence. Et le troisième élément paradoxal, faut, du moins qu'il faut signer, c'est que cette prise de position, elle est quand même extrêmement récente. Alors, le rôle pionnier, il a été donné dans une ONG consultative qui s'appelle Pax Christi, qui réunit un petit peu, c'est un des grands dialogues interreligieux au sein de la chrétienté, mais aussi en direction de l'islam en particulier. Et à la fin des années 80, elle a initié une réflexion sur les fondements religieux de la protection de la nature. L'appui institutionnel de Jean-Paul II, ben, il est timide, il intervient finalement assez tard, même si dès 79, il avait fait de Saint-François d'Assise le patron des écologues. Ce n'est qu'en 91, dans l'encyclique Centesimus Annus, où il va affirmer que, en gros, l'humanité croit pouvoir disposer arbitrairement de la Terre, mais que, au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu, l'homme se substitue à Dieu et finit par provoquer la révolte, la nature, plus tyrannisée que gouvernée par lui. Et donc c'est le premier texte officiel du Vatican dans lequel on voit une critique de l'action de l'homme sur les milieux naturels. Et enfin, le souci écologique de la Terre ne s'est imposé de manière véritablement explicite que sous Benoît XVI, en 2009, dans l'encyclique Caritas in Veritate, via le thème de la défense de la création. C'est-à-dire que le corpus officiel, donc celui du Vatican, ben, c'est un corpus, ce corpus qui fonde l'engagement à la fois spirituel et politique de l'Église catholique en faveur de la défense de la nature et de l'écologie, ben, il est très, très récent. Il va de 1991, surtout en 2009, et l'encyclique de François, Laudato Si, et on l'a vu extrêmement récente puisqu'elle date de l'an dernier. Et donc, ce glissement, cette posture doit être interrogée sous trois angles. D'abord, comment aujourd'hui la chrétienté voit les rapports entre l'homme et la nature? Est-ce que la nature, elle est soumise à l'homme? Que dit la Bible? Quelle ambivalence il peut y avoir entre les deux? Alors, deuxième item, si l'Église est très mobilisée, et là, elle est très mobilisée par le pape François, qui... à la limite est bien plus écolo et bien plus engagé que bon nombre d'écologistes aujourd'hui, ces initiatives ne sont pas toujours très bien suivies par le clergé, et ça a amené à de profondes scissions, des césures, des conflits au sein même de l'Église. Et elle doit être aussi interrogée sur le terrain, donc là, de nouveau un petit peu en géographe, en disant finalement, est-ce que les catholiques... qui se rangent derrière cette spiritualité de la nature, est-ce qu'ils font comme tout le monde? Quelle est l'intervention? Quelle est leur intervention concrète pour pratiquer à la fois leur foi et avoir une action dans la cité qui serait favorable à l'environnement? Alors, on a avec Étienne Grésillon, puisque je parle aujourd'hui, mais c'est largement un travail que on a fait tous les deux, on a une méthodologie assez classique, donc il va croiser des travaux sur les textes de la tradition biblique, des lectures critiques, des textes institutionnels, des observations de terrain, des entretiens auprès des acteurs de l'écologie politique, et en particulier on a eu de longs entretiens avec Mgr Stinger, qui est l'évêque vert, l'évêque qui arrive à vélo, et qui est sans doute celui des évêques qui était évêque de Troyes, qui a écrit un livre qui s'appelle « Planète vie, planète mort », et qui est sans doute celui qui est l'évêque qui est en tête de l'engagement de l'épiscopat français en faveur de l'écologie. Et de même qu'on a, lors de séminaires, d'ailleurs largement organisés par le ministère de l'Environnement dans le cadre de la politique de la EFSE, c'est-à-dire de l'évaluation française des écosystèmes, des services écosystémiques. Il y a un grand volet qui est les services écosystémiques culturels. Et dans, dans ce volet-là, on a organisé plusieurs séminaires avec les théologiens de la création, François Evé, Jean Baster, qui est aujourd'hui décédé, Jean-Bernard Auberger, Didier Doré, etc. etc. Alors, le plan, on va... J'ai construit en trois parties un petit peu fragmentées. La première question, c'est quels sont les fondements théologiques d'une écologie politique catholique? Et on verra qu'il y a une très nette opposition dans l'interprétation des textes fondateurs, de la Bible en particulier, entre une vision anthropocentrique de l'écologie et une vision très théocentrique qui est générateur de ce qu'on appelle une écologie de l'enchantement. La deuxième question, c'est comment le débat sur l'écologie divise ou revivifie l'Église, hein. Et on verra que face à un catholicisme vert, hein, où il y a une bonne partie des fidèles aujourd'hui qui sont très engagés, hein, dans la protection de l'environnement, il y a aussi une instrumentalisation, hein, de cet écologisme vert au détriment ou en faveur, hein, c'est selon des aspects, ben, les plus réactionnaires de l'Église, contre la contraception, contre l'avortement, contre le mariage homosexuel, comme tous les trans, transgenres, transgéniques, trans, etc. Et donc c'est un débat, hein, qui est... cette écologie, elle est, cette posture catholique écologique, hein, elle est finalement assez complexe, au sein de l'Église. Et enfin, le dernier point, quelques exemples, hein, très rapides pour vous montrer en quoi, ben, le fait d'être croyant, catholique, peut amener, hein, à avoir des postures territoriales qui sont un petit peu différentes. Alors, dans la première partie, sur cette vision anthropocentrique de l'écologie, la Bible dit très clairement, et notamment dans la Genèse, hein, que l'homme est à l'image de Dieu et que la nature doit lui être soumise. Hein, donc, vous voyez, dans la Genèse 1, verset 29, « Je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semences, ce sera votre nourriture. » Et surtout le verset 28, hein, qui a fait le plus de polémiques, « Dieu bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. » Hein, vous voyez, le terme est très fort. « Dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » C'est-à-dire que dès le tout début de la Bible, hein, dès la Genèse, hein, ben, on voit que de toute façon l'homme il est fait à l'égal de Dieu et que sa fonction c'est de dominer, c'est de soumettre la nature, de soumettre la nature au projet de Dieu et au projet des hommes. C'est-à-dire que la nature en tant que telle n'existe que pour être contrôlée, soumise, maîtrisée, répondre à des besoins et à besoin des hommes qui sont à l'image de Dieu sur la création. Et on a donc, hein, une écologie qui est très centrée sur l'homme dans la Bible. Hein. Vous voyez, emplissez la terre et soumettez-la. Voilà, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire avec d'autres textes, hein, que j'ai extraits ou de Benoît XVI, hein, ou de Jean-Paul II, hein, mais qui montrent bien que il y a une posture, hein, anthropocentrique très forte de l'Église qui montre que l'homme, que la nature, elle est au service de l'homme. Tout juste voit-on, et on le voit relativement peu chez Paul VI, dans Vatican II, et on commence à le voir un petit peu chez Jean-Paul II et ensuite chez Benoît XVI, que quand même l'homme il est responsable de ce qu'il fait. Et qu'il tend, hein, c'est pas parce que l'homme a le droit de soumettre à la nature que pour autant il ne peut pas faire n'importe quoi. Et il y a un certain nombre de textes, hein, qui montrent que l'homme est responsable, un début de critique du consumérisme. Et même Jean-Paul II, dans une homélie, hein, parle de péché grave contre l'environnement, oui, je vous le lis, hein. Il faut donc se rendre compte qu'il existe un péché grave contre l'environnement naturel qui pèse sur nos consciences, qui engendre une grave responsabilité à l'égard de Dieu, le Créateur. Et de même que l'homme a le droit de dominer, de soumettre la nature, mais son action est quand même soumise à des lois morales, et à des lois morales, hein, qui sont fixées par les tests fondateurs. Donc finalement, au sein de cette vision anthropocentrique, on assiste à un premier glissement qui a été de l'homme maître, hein, qui en gros domine jusqu'à la fin des années 70 ou jusqu'au milieu des années 80, à l'homme gardien. Hein, donc, et dans ce glissement de l'homme maître à l'homme gardien, où à chaque fois on est toujours dans une vision quand même très anthropocentrique, hein, c'est-à-dire que la nature elle est faite pour l'homme. Simplement, l'homme gardien, il a plus de responsabilités. Il y a par contre un glissement, parce que dans ce glissement, la nature, elle va prendre figure de création divine, et donc Dieu va donner un pouvoir omnipotent à l'homme, mais il soumet ce pouvoir à un examen critique divin. C'est-à-dire que dans la posture de l'homme gardien, l'homme, il peut faire ce qu'il veut, mais il le fait sous le regard de Dieu. Et ceci va fournir une première réponse de l'Église aux critiques de White, hein, assorti aussi d'une discussion sur l'interprétation de la Genèse. Hein, et là, en particulier, Mgr Stinger était intarissable sur le sujet. Ils disent « Oui, mais soumettez-le, ça ne veut pas dire soumettez-le, c'est dans le sens de maîtriser, mais pas de dominer. Dominer, ça renvoie au dominus du latin, hein, le dominus mais qui est le maître de la maison, donc qui est le responsable et non pas celui qui contrôle. » Et de même que le « soyez fécond », il faut le remettre dans le contexte où ça écrit, c'est-à-dire le moment où le peuple juif est en exil à Babylone, que numériquement, il a perdu pratiquement la moitié de son effectif, et que c'est au moment de se reconstruire, de repartir de l'avant, que leur dit « développez-vous », etc. C'est-à-dire qu'il y a une argutie dont l'Église catholique est assez, enfin, où il y a une production de textes qui est extraordinairement abondante, hein, pour discuter un petit peu le sens des mots. Alors, face à cette vision anthropocentrique, hein, il y a quand même une vision très ancienne dans l'Église et qui est plutôt aujourd'hui en train d'être revivifiée, qui est un théocentrisme générateur d'une écologie de l'enchantement. Alors, ce théologisme, on peut le voir dès la Genèse, hein, en ayant une autre lecture, hein, où le premier jour, Dieu sépare le ciel et la terre, ensuite les eaux du dessus des eaux du dessous, le continent des mers, les étoiles, la lune et le soleil, le cinquième jour, il crée les animaux, les oiseaux et les poissons, et la sixième, il crée l'homme à l'image de Dieu. Mais finalement, dans cette conception théocentrique, l'homme, il est un symbole, enfin, à la fois l'homme et l'homme est un symbole du Dieu agissant. C'est-à-dire que, et notre texte le montre, hein, le texte des psaumes, hein, où Dieu est un véritable architecte du cosmos, hein, vous voyez, Dieu intervient dans le dessin des cours d'eau, il élabore le dessin des terres et des mers, il prend l'aspect du jardinier, hein, les arbres de Yahvé se rassasient, les cèdres de Liban qu'il a plantés. Il intervient dans la nature, il fait pousser l'herbe, il fait pousser les animaux, il prend part aux événements climatiques, avec des éléments positifs, mais aussi des éléments négatifs. Hein, il dispense de la neige, il répand le givre, il jette la glace par morceaux à s'affroidir. Qui peut tenir? C'est que finalement, on a là véritablement une espèce de système écologique biblique. Hein, voyez. C'est l'homme qui a créé les écosystèmes, et dans le texte des psaumes, qu'il a créé à son image, avec un dessin, et on est donc dans un système, dans un écosystème finalement catholique. Et autour de cet écosystème catholique, le regarder, puisque c'est le dessein de Dieu, que c'est la volonté de Dieu, c'est le meilleur moyen d'accéder à Dieu. Et on a tout un courant qui est plutôt un courant médiéval catholique, hein, qui est représenté par Hildegard de Bingen ou par François d'Assise, qui, en regardant les merveilles de la nature, c'est le plus sûr chemin pour monter vers Dieu. Hein, c'est-à-dire, vous voyez, comme Dieu a fait la nature, en regardant la nature, ça permet de se rapprocher du divin. Et François d'Assise, on le sait, parler aux oiseaux, s'était retiré dans sa grotte, hein, dans la montagne, la moyenne montagne, hein, italienne, pour se mettre, de même que Hildegard de Bingen, hein, idolâtrait les animaux et pensait que tous les animaux, tous les oiseaux, toutes les bêtes, hein, étaient à l'image de Dieu. D'ailleurs, elle est beaucoup utilisée aujourd'hui, hein, j'ai écouté France Culture en venant ici, elle est beaucoup utilisée, hein, dans le droit des animaux, hein, c'est une référence, hein, pour tous les gens qui se battent, hein, notamment aux États-Unis, pour faire un droit des animaux. Donc, finalement, dans cette deuxième posture, hein, le contact avec la nature procure non seulement un enseignement sur Dieu, mais il donne à l'homme de se rapprocher du divin. Et donc, finalement, la protection de la nature devient une marque de foi. Hein, c'est-à-dire que, comme c'est en regardant la nature qu'on accède à Dieu, dans la mesure où on protège la nature, on a un accès à Dieu qui est encore privilégié. Hein, donc, être chrétien, être engagé dans sa foi, c'est protéger la nature. D'où le succès aujourd'hui du vocable « création » dans le discours écologique catholique, hein, qui a été une initiative qui vient du patriarche orthodoxe Démétrios en 89, mais qui est reprise aujourd'hui par la Conférence des évêques de France, hein, et le réseau, hein, ECEN, European Christian Environmental Network, qui a lancé les journées de la création, qui sont organisées chaque année en septembre. Et je vous ai mis en dessous, mais ça doit apparaître en tout petit, hein, c'est un événement qui tend à avoir de plus en plus importante, hein, qui est organisé dans tous les diocèses de France et d'Europe. Alors, le troisième point, c'est qu'il y a quand même, dans cette tension qui existe encore, hein, entre une vision anthropocentrique et une vision théologique, il y a quand même des fragilités, des points de friction dans l'engagement catholique écologique. Alors, cette tension, elle rejoint une autre tension, qui est cette fois-ci philosophique, hein, entre y a-t-il un enchantement ou un désenchantement du monde, et vous savez, une tension, hein, qui oppose Serge Moscovici à Marcel Gauchet, hein, dans le très beau bouquin qu'il a écrit, hein, sur le désenchantement du monde. Et derrière cette tension entre enchantement ou désenchantement, il y a aussi une tension très forte entre une posture moderniste qui est confiante dans le génie de l'homme et qui prône la soumission de la nature à son projet, et la posture de la non-modernité, hein, celle de Bruno Latour, qui rejette le projet, qui est consciente de la finitude du monde et qui est proche des théories de la décroissance d'André Gortz, de Jacques Ellul et de Serge Latouche. Et l'opposition, hein, est parfois frontale entre ces deux courants catholiques, hein, et les propos échangés sont particulièrement vifs. Alors, deuxième dérive, enfin, ce que moi j'appelle, et là pour le coup c'est Bertrand qui parle, hein, c'est que finalement cette écologie humaine, elle justifie l'intransigeance sociale de l'Église. Parce que si on défend la vie, si on défend les écosystèmes, ben, on va passer d'une posture de défendre la nature, tel groupement végétaux, tel oiseau, de ne pas vouloir intervenir, mais finalement une posture où on veut également descendre à la nature au sein de l'homme. Et donc on va être contre la contraception, contre l'avortement, contre le mariage homosexuel, et finalement, vous avez tout un courant de l'Église qui aujourd'hui instrumentalise toute cette posture écologique de l'Église pour défendre les valeurs les plus conservatrices de l'Église catholique. Donc ça, c'est développé en particulier par Jean-Paul II et Benoît XVI. C'est un peu moins présent chez le pape François. Et c'est un mouvement qu'on trouve beaucoup, enfin c'est une posture qu'on trouve beaucoup dans un mouvement qu'on appelle les Veilleurs, hein, qui a été créé en 2013 à la suite de la manifestation pour tous. Alors, il est créé par quelqu'un qui s'appelle Gauthier Besse, qui est quand même ancien chef scout unitaire, hein, et qui, au nom de l'écologie intégrale, promeut les valeurs les plus conservatrices de l'Église catholique. Et alors, ce qui est très troublant, par contre, c'est que chez les écologistes, beaucoup de gens ont les mêmes postures. Hein. Par exemple, quelqu'un comme José Bové, il a pris parti contre le GPA. Hein. Et il y a, au sein des écologistes un peu intransigeants, des postures qui seraient non à l'avortement, non au GPA, non dans tous les traitements qui peuvent être un petit peu génétiques des maladies. Hein, et vous voyez, cette tension qu'il peut y avoir entre les deux, elle est très forte et très violente au sein de l'Église, mais elle a traversé également le mouvement écologique, hein, indépendamment de postures droite-gauche, hein, ou... Si on sait encore à peu près ce que c'est. Alors, ces tensions-là, vous voyez, qui sont des tensions théologiques, qui sont aussi des postures citoyennes, fait qu'aujourd'hui, on a un catholicisme vert, et que cette question de l'écologie, du rapport des croyants à la nature, hein, c'est un vivier de pensée extrêmement important. Alors, vous avez une production littéraire, enfin, production... littéraire, théologique, etc., qui est particulièrement abondante. Hein. Donc voilà, je vous mets en pâture, hein, un nombre d'ouvrages, mais je sais pas, il en sort deux ou trois par semaine. Enfin, on a une veille, c'est totalement étonnant la production qu'il peut y avoir autour de ça. Et il s'ensuit, au sein du monde catholique, une véritable profusion de nouveaux mouvements et initiatives locales. Hein. Un des plus importants, c'est le collectif Vivre Autrement, qui fédère 25 associations catholiques ou chrétiennes qui s'engagent pour la nature. Vous avez aussi le mouvement rural des jeunes, Chrétiens unis pour la terre, un très grand réseau qui est très intello, qui s'appelle Église et écologie, les cahiers de Saint-Lambert, quand le secours catholique se met au vert, et vous avez par exemple le secours catholique ou bien CCFD Terre solitaire, hein, Terre solidaire, hein, qui ont un engagement écologique qui est extraordinairement puissant. Et vous avez aujourd'hui énormément de mouvements que l'on peut penser des mouvements écologiques complètement athées, Et quand on recoupe, on voit qui ont à leur tête des gens qui ont des engagements spirituels qui sont extrêmement importants. Hein, il y a une très forte perméabilité. Hein. Au niveau régional, je l'ai vu en région centre, et volontairement, je ne citerai pas de nom, mais il y a une très grande perméabilité entre un engagement écologique extrêmement important, étant la tête de très grands réseaux, hein, et de l'autre côté, des gens qui ont un engagement spirituel extrêmement important. Et donc, c'est sur ce dernier exemple que je finirai, hein, en disant finalement qu'il y a quand même beaucoup d'associations catholiques qui se mettent au vert, et qu'aujourd'hui, en région centre notamment, beaucoup de combats écologiques, hein, beaucoup de réalisations écologiques sont portées, hein, par des gens qui sont engagés dans leur foi catholique. Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais en introduction. Quand j'avais réalisé auprès de 25 grands propriétaires soloniaux et 25 propriétaires que je savais très engagés dans leur foi catholique. Alors ça, c'est un peu le hasard de la vie, hein. Il se trouve que j'étais locataire dans les communs d'un château où la châtelaine, hein, était très, très, très catholique, très mystique, et comme on sait, bien entendu, elle m'a fait pénétrer, hein, dans ses 25 autres propriétés, et c'est donc sur sa recommandation. Et donc les gens me recevaient dans un premier temps parce que j'étais l'ami de Françoise, et donc j'ai pu dérouler. Alors, systématiquement, les entretiens se sont passés en deux temps, c'était assez rigolo. La première fois, j'arrivais en disant, je vous sais engagé dans votre foi, et j'ai l'impression que vous gérez votre propriété d'une manière différente que si vous n'étiez pas engagé dans votre foi. Et la première fois, c'était, mais non, c'est n'importe quoi, si les arbres pouvaient être carrés, je pourrais les empiler directement dans le camion, ça me ferait gagner, etc. Et donc j'étais reçu très gentiment, avec du thé, voilà. Et après, je leur disais, mais par exemple, comment vous faites pour Noël? Ah ben, il fait, nous, on fait Noël autrement. Et Noël autrement, c'est un courant décroissant chez les catholiques, hein, qui fait qu'on ne fait pas de cadeaux, surtout pas de cadeaux qui seraient des jouets qui seraient faits par des enfants en Chine, mais chacun avec un couteau va faire une petite pièce pour l'autre, ou un pull, ou une broderie. Donc c'est des gens qui sont très décroissants, alors que la plupart du temps, ce n'est pas les moyens financiers, hein. Même si on n'est pas dans des grandes fortunes ou des Bouygues ou des Bolloré ou des Sédoux qui ont des propriétés en Sologne, hein, mais c'est quand même, hein, des familles aristocratiques très anciennes, hein, parfois de noblesse médiévale, donc de premier quartier, hein, qui vivent chichement, mais qui vivent quand même correctement, qui ont des biens. Et donc ils ont une posture très décroissante, mais décroissante par conviction, par foi. Et donc, on se quittait la première fois, et ça s'est passé 23 fois sur les 25 entretiens. Et après, il me rappelait en disant, écoutez, j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez dit, j'aimerais bien vous revoir. Et finalement, après la deuxième fois, on revisitait la propriété. Il disait, oui, j'ai réfléchi, et effectivement, je n'avais pas réalisé que ma foi catholique m'amenait à gérer ma propriété de manière différente. Et donc, on trouve des invariants, dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, parmi les invariants, il y a le fait que souvent, à 5 ou 10 minutes du château, vous allez avoir une clairière avec une Sainte Vierge ou une croix, et systématiquement, tous les membres de la famille viennent se recueillir, renforcer leur foi, et c'est difficile de renforcer la foi sous les houppiers des arbres. Donc, on a fait une grande clairière, hein, qui est toujours à 10 minutes, un quart d'heure à pied. De même que vous avez un refus de la solennisation du territoire. Donc, je parlais tout à l'heure, hein, puisqu'avec Christophe Baltinger, on a travaillé sur le programme Disperse, hein, sur la fermeture, hein, par des barrières, hein, du paysage solonio. Mais à chaque fois que vous avez un catholique qui est engagé dans sa foi, il y a un refus de fermer le territoire, parce que ne confisque pas ce qui appartient à Dieu. Alors, ça peut être motivé par des raisons financières, mais pour certains, non, parce que vous avez quand même des gros moyens qui sont derrière, et c'est une posture religieuse. Voilà, la nature, elle n'a pas à être enfermée, elle n'a pas à être confisquée. De même que vous avez un maintien des paysages ouverts, vous avez quelque chose qui m'a beaucoup frappé, il y avait 3 franciscains, et les franciscains, ils ont aidé et partout pour accueillir des oiseaux, sans en avoir conscience. C'est ça qui est totalement génial. Enfin, le fait même que tout d'un coup on fasse des choses sans tout à fait prendre conscience, hein, de le faire. Des zones humides non drainées et une présence plus systématique de parcelles forestières non gérées. Et ça, c'est un élément qui est très fort, parce que dans ces propriétés qui vont de 50 à 400 hectares, vous avez systématiquement une parcelle qui, la plupart du temps, fait un demi-hectare dans lequel il n'y a aucune gestion sylvicole depuis une cinquantaine d'années. Et quand on dit aux gens, mais pourquoi là, que dit le PSG, que dit le plan de gestion, pourquoi vous faites rien, on dit, ah ben oui, mais il faut que Dieu s'exprime, il faut que la nature soit là, il ne faut pas que l'homme intervienne partout. Et quand on gratte, ben, on retrouve hein, le jardin initial, l'Éden, le péché originel, hein, qui n'est pas entre Adam et Ève, hein, mais qui est le fait que tout d'un coup, l'homme se perd son état d'innocence pour intervenir sur l'écosystème. Et vous voyez, donc, ça finit par être une signature relativement forte, hein, puisque dans toutes les propriétés où les gens qui gèrent le domaine sont engagés dans leur foi, laissent hein, ce demi-hectare totalement à l'abandon, voilà, c'est insignifiant. Alors évidemment que le reste, toute la propriété, les 500 hectares, ne sont pas sans gestion sylvicole. De toute façon, le CRPF hein, serait furieux, ça ne serait pas possible. Mais vous voyez, il y a une petite signature hein, qui arrive. Alors, de même, hein, j'ai travaillé sur le réseau des agriculteurs qui sont au Normabé, hein, donc qui sont bio dans la région centre, hein, et je me suis aperçu que, donc il y en a à peu près 400, enfin il y en avait un peu moins de 400 quand on a fait l'étude avec Étienne, hein, et sur les 400, vous en avez à peu près plus de la moitié qui sont des catholiques croyants, qui sont très engagés dans leur foi. Et il y a un rapport, donc, entre le fait de passer au bio et le fait d'être chrétien et engagé dans sa foi. Et il y a quelqu'un qui est assez emblématique à cet égard-là, c'est Jacques de Rochefort, hein, qui a une, enfin, c'est son fils qui l'a reprise depuis, qui a une exploitation de 75 ans bosse hein, à Pathé. Vous voyez, Pathé, c'est 2,5 mètres de l'os, hein, on est sur pratiquement les meilleures terres à blé du monde. Il s'est converti au bio en 2001-2002, et quand il raconte, hein, il dit, ben voilà, je suis allé à Rome dans le cadre des familles chrétiennes, à Pâques, et devant le pape, l'Esprit Saint m'a traversé, et j'ai su qu'il fallait que je passe au bio. Alors, c'est sa manière de le raconter, mais il est évident que sa foi l'a permis de faire quand même quelque chose qui est assez iconoclaste en Beauce, hein, c'est de passer au bio. Il a également une histoire familiale, hein, son fils est allergique au gluten, et comme c'est des gens bien, ben, du coup, personne n'a mangé de gluten dans la famille, hein, pour pas qu'il y ait un menu spécial pour son gamin qui avait une dizaine d'années à l'époque. Donc, il s'est mis à fréquenter tous les réseaux de commerçants bio, etc. Et il s'est forgé là, mais en même temps qu'il fréquentait un courant qui s'appelle Écologie et Chrétien du Loiret, et qu'il était très perméable à ce nouveau discours de l'Église, hein, il s'est forgé un argumentaire, hein, vous voyez, c'est une rencontre entre une histoire familiale et une histoire de foi, qui l'a amené à totalement convertir hein, ses 75 hectares hein, en bio. Alors, en même temps, il est sur une niche économique, hein, parce qu'en particulier, il fait du maïs bio, il est pratiquement le seul à faire ça, il fait du chanvre, il fait du petit épeautre, du grand épeautre, hein, etc. Et donc, comme ben, la demande est plus forte que l'offre, hein, il a des prix relativement importants et, hormis les 5 ans qui ont été difficiles mais qui étaient couverts par le processus de conversion, finalement, il s'en sort bien. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. Hein, il y a les Sœurs des Campagnes, hein, l'abbaye de Notre-Dame de Bethléem à Lombreuil, hein, qui n'est pas très loin de Montargis. Ben, elles se sont mises à respecter l'environnement, à moins polluer. Elles ne mangent que ce qu'elles font, elles ont une gestion écologique de leur domaine et elles vont participer à toutes les réunions publiques hein, sur les sujets environnementaux et pastoraux auprès des agriculteurs, auprès de la communauté de communes, etc. Alors c'est des sœurs, elles ne sont pas recluses, hein, c'est un ordre qui est ouvert sur le monde et qui fait un agit-propre écologique qui est d'autant plus efficace que, à la limite, un militant écolo, on peut lui dire de ne pas participer à une réunion, que virer des sœurs, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et elles ont autour d'elles, à force d'être là, d'être présentes, de faire visiter, ben, elles ont induit, par exemple, maintenant, Lombreuil, ben, la cantine hein, va être directement alimentée par des producteurs bio qui sont à proximité, donc circuit court, écologique, etc. Et elles sont largement, hein, vous voyez, elles font une espèce de prosélytisme vert hein, autour de ça. Dernier point maintenant, toujours dans les réseaux de producteurs biologiques hein, dont je vous parlais, dont on voit sur le graphique hein, qui sont en très forte augmentation. même si la région centre n'est pas la première région la plus tournée vers le bio, ben, dans cette très forte augmentation, on considère, je vous l'ai dit à peu près, alors c'est toujours difficile de savoir est-ce que les gens sont engagés dans leur foi, pas engagés dans leur foi. Ça se fait soudain par recoupement des gens qu'on voit dans des réunions. C'est pour ça que je n'ai pas de chiffres extrêmement précis. Mais on considère en France qu'il y a à peu près encore aujourd'hui 15% de catholiques qui sont véritablement engagés dans leur foi. Et les gens dans les réseaux de producteurs biologiques, il y a à peu près pour 50% de catholiques engagés dans leur foi. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, à creuser entre les deux. Alors pareil... Quand on prend par exemple les producteurs bio du Loiret, il y en a 9 sur 23 qui sont des catholiques pratiquants et qui sont très, très engagés. Vous voyez, 9 sur 23, 3 fois 9, 27, on est un tiers. On est pratiquement 2 à 3 fois plus que le nombre de pratiquants. Pareil pour les AMAP. Quand on prend les 12 AMAP dans le Loiret, il y en a 5 au moins qui ont été créés, qui sont animés par des catholiques pratiquants, avec toujours cette volonté. Alors, en conclusion, dans cette trajectoire qui a été un peu du spirituel à la géographie, on peut dire que oui, aujourd'hui, par bien des côtés, le catholicisme est une écologie politique. Elle promeut un discours, un argumentaire qui est théologique, qui insiste les chrétiens, les croyants, dans des logiques de décroissance, de protection de l'environnement, et d'essayer le plus possible de réduire leurs traces sur Terre. Et d'ailleurs, dans Écologie et Chrétiens du Loiret, mais je sais qu'il y a exactement le même mouvement, enfin, je ne les connais pas parce que je n'ai pas suivi, mais il y a exactement les mêmes mouvements dans l'Indre, dans le Loir-et-Cher, dans l'Indre-et-Loire, etc. Vous avez des gens qui sont quand même assez nombreux et qui vont ne plus manger de viande, qui vont abandonner la deuxième voiture pour marcher à pied, qui vont essayer de réduire leur empreinte carbone, qui vont être décroissants, mais décroissants non pas au sens de Bruno Latour ou de Serge Latouche, mais décroissants par spiritualité. Donc finalement, cette religion... elle est très puissante pour elle a mobilisé beaucoup de ces éléments pour représenter l'écologie, le paradis, l'apocalypse, le déluge, l'harmonie perdue, la Jérusalem céleste. Alors Jérusalem céleste, qui est assez rigolo, c'est que quand on regarde aujourd'hui le texte du ministère de l'environnement sur les trams vertes et les trams bleues, qui, vous savez, normalement sont dans la ville durable, un peu ce que l'on peut faire de mieux, mais vous avez pratiquement mot à mot exactement la description de la Jérusalem céleste. C'est-à-dire que si vous prenez d'un côté le dernier texte sacré qui vous décrit finalement la fin du chemin des chrétiens, le moment où le peuple de Dieu est rassemblé, si vous comparez la Jérusalem céleste à l'image mythique de la ville durable, mot par mot, thème par thème, vous prenez pratiquement le même argumentaire. Je ne veux pas croire qu'il n'y ait pas des liens, conscients ou inconscients, entre ces deux images. Alors, finalement, aujourd'hui, cette religion, elle devient un moteur de l'engagement pour l'écologie. La religion, parce qu'elle est, parce que je leur propose, par ses réseaux, à amener à l'écologie des gens qui, souvent des gens de droite, assez conservateurs, etc., qui ont un engagement écologique, alors que finalement ils ne l'étaient pas forcément par les réseaux qu'ils fréquentaient. Alors par contre, si on renverse aujourd'hui, il est évident que l'Église, notamment l'Église catholique, qui était plutôt en perte de recrutement, fait avec l'écologie un véritable prosélytisme vert et amène à elle, en particulier avec le mouvement des jeunesses catholiques, amène à elle beaucoup de nouveaux convertis, c'est-à-dire qu'elle a verdi son discours pour créer un renouveau spirituel. Donc vous voyez finalement, en conclusion, dans le... Et merci évidemment de votre attention, fut-elle électronique, vous en avez encore que plus de mérite. Finalement, ce qui pouvait paraître assez curieux en disant est-ce que l'Église catholique nous propose une éthique environnementale, est-ce qu'on est dans un espèce de discours pro-catho, pro-religieux, etc. J'espère vous avoir montré que, oui, effectivement, on est croyant ou on n'est pas croyant, mais que les croyants, ce sont aussi des citoyens, et qu'au nom de leur foi, ils interviennent dans la cité, et qu'ils sont porteurs, dépositaires, hein, d'un espèce de renouveau, ou en tout cas d'une voie spirituelle pour faire de l'écologie. Je vous remercie.
Merci.
Voilà, 40 minutes, hein, vous voyez que j'ai été
pile poil. Bien. Merci Bertrand. Donc on dispose d'un peu de temps, voire un petit peu plus même de temps, pour engager peut-être des éléments de débat ou simplement de questions-réponses. Du côté de ouais, Frédéric.
Ouais, moi j'ai une question. Alors c'est en lien avec la fin de l'intervention sur le fait que finalement, de ce que j'en comprends, l'écologie catholique pourrait être, par certains côtés, peut-être politiquement plutôt teintée à droite, c'est-à-dire de l'écologie conservatrice, on pourrait dire, ce qui se démarque plutôt sur l'écologie politique en France, qui est quand même plutôt nettement marquée à gauche. Est-ce que ça fait sens, cette opposition de deux écologies qui, au-delà peut-être d'une posture qui pourrait être commune sur le plan de l'écologie, ferait... Alors, tu mentionnais tout à l'heure le cas de José Bové qui était aussi, qui avait des valeurs assez consensuelles. Enfin, en gros, voilà, c'est un petit peu quel lien entre l'écologie politique et l'écologie catholique.
Déjà, l'Église est très divisée parce qu'il y a dans les courants écologiques au sein de l'Église catholique, il y a une nette césure entre le mouvement autour des veilleurs, hein, qui eux sont à la fois très écolos, mais ce qui les motive surtout, c'est un discours très conservateur, c'est la défense de la vie, et donc tout ce qui n'est pas la vie, contraception, avortement, mariage homosexuel est contre. Et ça, on pourrait les classer comme des écolos de droite, quoi. Hein. Et d'ailleurs, ils ont un discours qui est très spécial. Dans un même argumentaire, hein, ils sont contre les OGM et ils sont contre la pilule. Hein, et donc, ils font un argumentaire en disant, ils ont le même argumentaire, hein, c'est les mêmes raisons éthiques qui leur disent, on est contre la contraception et contre les OGM. Hein, donc, vous voyez, par un refus d'intervention de substances chimiques qui viennent modifier les cycles, les flics de la nature, etc. Mais de l'autre côté, vous avez quand même beaucoup de mouvements qui sont très cathos, mais qui sont aussi très écolos et qui sont plutôt de gauche. Hein, qu'on va trouver plutôt parmi les décroissants dans Écologie et Chrétiens du Loiret, pour la plupart. C'est des gens qui lisent La Croix, qui sont abonnés à Télérama, c'est les anciens cathos de gauche, quoi. Hein. Plutôt un peu plus jeunes, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont dans les 35-40 ans. Et donc, cette opposition, enfin, je veux dire, les croyants, le peuple des fidèles, il est très nombreux et il y a des césures, hein, il est loin d'être unanime derrière tout ça. Mais ce que je voulais dire, moi, ce qui m'a étonné, c'est que il y a des gens qui, finalement, de par leur posture plutôt un peu conservateur, catholique, haute bourgeoisie ou bourgeoisie moyenne, n'étaient pas finalement tellement appelés à s'intéresser à l'écologie. Hein, et qui l'ont été par le discours spirituel que leur proposait l'Église. J'espère que j'ai répondu à ta question.
J'avais aussi une seconde question sur, par exemple, pour la comparaison entre le fait d'être catholique ou non catholique, même pour des producteurs bio, sur la façon de conduire, est-ce que quelque part, là tu as présenté, par exemple, sur la partie forestière en Sologne, essentiellement ou uniquement, ou peut-être que tu avais un référent non catholique, c'est-à-dire est-ce que les propriétés qui n'étaient pas catholiques avaient... parce que la clairière, par exemple, pourrait être aussi un endroit sympathique pour des non-catholiques. Donc, c'est-à-dire, est-ce que tu avais un espèce de groupe contrôle ça, c'est pour la partie forestière, mais on pourrait imaginer de la même façon. Est-ce que, quand on va dans le bio, en étant catholique ou non-catholique, on a des pratiques différenciées dans une même filière?
Alors, Pour la Sologne, c'est vrai, ça c'est une critique, c'est-à-dire que moi j'ai essayé de voir dans un réseau où tous les gens étaient très engagés dans leur foi, grands propriétaires, j'essaye de voir s'il y avait des pratiques communes. Donc il faudrait maintenant qu'à la limite je travaille sur un territoire donné dans lequel il y aurait toutes les religions, toutes les postures, pour essayer de voir est-ce que les invariants, ben, par exemple ces parcelles soumises à aucune gestion sylvicole, est-ce qu'on les retrouve que chez les catholiques ou si on les retrouve ailleurs ? A priori, ça signe vraiment une propriété catholique. Mais je suis assez d'accord avec toi, et ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, mais le temps me manque, hein, comme à nous tous. Il faudrait que je puisse comparer mon échantillon des 25 propriétaires engagés dans leur foi à d'autres propriétaires engagés ou pas engagés, ou protestants ou autres, etc. Alors par exemple, les protestants, hein, j'ai croisé avec le CRPF, hein, mais qui pour tout un tas de raisons n'ont pas voulu qu'on en fasse un papier, mais le taux d'enrésidement chez les protestants est beaucoup plus important que chez les catholiques. En Sologne, hein, parce que vous savez que depuis Max Weber, etc., à la limite, un protestant, il pense que s'il arrive à mieux exploiter toutes les ressources, c'est pas pour rien que les protestants ont inventé la banque, hein. S'il arrive à le faire, il sera encore un meilleur, plus près de Dieu, quoi. C'est une espèce de mieux profiter, enfin plus près de Dieu, de plus valoriser sa trace divinement, sa trace sur terre. Et ça se marque, hein, ça c'est relativement net, hein, mais évidemment dans la banque de données du CRPF, il n'y avait pas marqué catho, protestant, mais c'était avec les responsables qui savaient très très bien qui était qui, qu'on a pu faire, etc. Et il y a un taux plus important, mais assez net, hein, de l'enrosinement dans les propriétés qui ont des engagements protestants que dans des engagements qui ont des propriétés catholiques. Et quand on reprend, on avait fait ça avec Étienne dans un autre article, quand on reprend la symbolique de toutes les plantes à l'intérieur de la Bible, le chêne et le feuillu est plutôt à l'image de Dieu, alors que les résineux sont plutôt à l'image ou du diable, enfin, ou une vision qui est plus... Qui est plus négative. Mais oui, tu as tout à fait raison, il faudrait que je poursuive le travail pour avoir un échantillon de contrôle pour ne serait-ce que valider cette hypothèse.
Oui, Richard Chevalier, dans votre discours, moi j'ai l'impression que vous essayez de classer croyants, pas croyants, de gauche ou de droite, etc. Et sur l'exemple que vous avez pris, il y a des aspects aussi fonciers, historiques. C'est sûr que si on prend des familles historiques, catholiques, implantées depuis longtemps sur le territoire, c'est pas pareil que des gens, des personnes. Alors ça, je sais pas, faudrait voir aussi dans les études l'histoire des propriétés, parce que comme la Sologne, c'est une région qui a été agricole et qu'aujourd'hui elle est très boisée, et il est possible qu'il y ait un effet un petit peu historique, que les terres, on les a boisées en résineux plus qu'en feuillus, et que ça peut être aussi une simple question de foncier et de durée des propriétés. Donc il faut être très prudent avant de faire des catégories et des interprétations très, très tranchées, quoi.
Oui, enfin, là moi je vends ma sauce, donc, mais ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, ce qui m'a, pour être très franc dans l'étude que j'ai faite sur les grands propriétaires soloniaux, donc c'est beaucoup de gens qui ont des propriétés au moins depuis le milieu du 19e siècle, hein, donc il y a plus de 150 ans, des gens qui ont été très catholiques et très proches de Monseigneur Dupanloup, qui, je vous rappelle, était à la tête, hein, du mouvement religieux sous Napoléon III, et qui était l'évêque d'Orléans. Hein. Et d'ailleurs, beaucoup de certains propriétaires, hein, m'ont montré des carnets intimes de leur grand-mère, de l'arrière-grand-mère, hein, qui allait se confesser, qui était vraiment un directeur de conscience, hein, qui était très présent autour de ces aristocrates. Alors, aujourd'hui, sur un plan financier, c'est des gens qui ont beaucoup perdu, mais ce qui les lie entre eux, ce qui va faire le lien social, c'est toujours un peu leur foi catholique. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a... Enfin, et là, c'est l'apprenti sociologue qui parle, on a du mal à faire la différence entre ce qui relèverait uniquement de la foi ou ce qui relèverait, c'est ce que vous signalez, d'une histoire foncière qui fait que ces gens ont une obsession, c'est de transmettre leur propriété à leurs enfants, comme ils le font depuis le milieu du XIXe siècle. Et dès lors, effectivement, qu'on veut que l'objectif, c'est transmettre la propriété à ses enfants et à ses petits-enfants, et ce qui là relève du foncier de l'histoire familiale et pas forcément de l'engagement spirituel, ben, il est évident qu'on va plutôt aller vers le feuillu que vers le résineux. Hein, sachant que les résineux, on est quand même sur des rotations qui sont beaucoup plus courtes, de l'ordre d'une quarantaine d'années. Ce qui fait que j'ai du mal, sur un plan anthropologique, à faire le distinguo entre ce qui relève d'une histoire familiale et dans cette histoire familiale, il y a une identité catholique qui est extrêmement forte, mais qui est intimement liée, et à ce qui relèverait du seul engagement spirituel. Quoi. Et là, il faudrait... moi, je suis très conscient de mes limites disciplinaires. Et là, pour le coup, il faudrait qu'on travaille avec un anthropologue un peu spécialiste de ces questions-là pour essayer de démêler cette pelote de laine. Quoi.
Bon, par contre, ce que j'ai bien aimé dans le discours, c'est la façon dont vous démontrez que finalement, en matière de prise en compte de l'écologie, ben, les milieux catholiques sont quelque part plus moteurs que la moyenne de la population. Et bon, moi qui suis un local, effectivement, je ressens ça aussi. Voilà, je laisse un écologue.
Moi, ça avait été une de mes grandes surprises. Notamment, j'ai beaucoup fréquenté, il y a une paroisse à Orléans, dans laquelle se réunit Écologie Chrétien du Loiret. Ils sont très très engagés dans la COP21 en ce moment, dans les jeunes pour le climat. Il y a énormément d'actions portées par les catholiques autour du développement durable. Des jeunes, ils font des trucs assez rigolos, ils font des repas. Ils mettent le couvert et les nappes, etc. Et ils invitent tous les gens à manger, mais il n'y a rien à manger. Ils font des buffets dînatoires et on arrive très très bien habillés. C'est fait dans la rue de Bourgogne, etc. Et c'est une espèce de jeûne festif. De même que dans toutes les réunions, le CCFD Terre Solidaire en organisait beaucoup. Il y a des apéros dans lesquels il n'y a rien. On est invité dans un apéro jeûnatoire.
Ça coûte moins cher.
Voilà. mon grand étonnement, parce que c'est vrai que je ne m'y attendais pas, c'était de voir à quel point, en région centre du moins, il y a une perméabilité très forte entre un engagement spirituel et un engagement écologique. Et au plus haut niveau des responsabilités. Je vous cite des organismes, DREAL, DDT, beaucoup de gens que je connaissais sur un plan professionnel, tout en ignorant absolument leur engagement spirituel, je les ai vus être des responsables de ces cercles, ces cercles de foi, ces cercles écologie et religion, et donc il y a une espèce de perméabilité des postures. Oui, ça a été un grand étonnement.
Une question de Catherine.
Voilà, moi j'ai entendu beaucoup de choses où ça allait de l'homme vers la nature, avec le choix d'agir ou de ne pas agir. Mais j'ai vu dans l'exposé plutôt des liens dans ce sens-là. Et je voulais savoir s'il existait aussi des travaux qui concernent le lien dans l'autre sens, à savoir si l'environnement peut aussi avoir modelé. La spiritualité chez l'homme. Hein. Et si on peut faire aussi des liens entre des traits environnementaux et les développements de religion.
Il y a un géographe américain qui s'appelle Ping Yu Li, qui est d'origine chinoise, mais de deux générations, qui a beaucoup travaillé sur la question. Et de même, dans le colloque qu'on a organisé avec Étienne, on s'aperçoit qu'il y a quand même des lieux géographiques qui sont plus propices à l'évaluation, à l'élévation spirituelle. Ouais. Donc il y a les grottes, les sources, les montagnes. Mm-hmm. Voilà, c'est qu'il y a des lieux qui sont plus chargés de spiritualité que d'autres et sur lesquels se sont greffés. Alors c'est très sensible dans tout ce qui est animiste en Afrique de l'Ouest, mais même chez nous, hein, on s'aperçoit que quand on fait la répartition des lieux saints, des grands pèlerinages, ben, on retrouve trois ou quatre grands types géographiques.
Mm-hmm. Oui, je pense, ben, je sais pas, moi je pense, enfin, les abbayes cisterciennes, souvent, enfin, je me demande pourquoi elles sont là. Et j'ai un peu l'impression, voilà, hein, dans un jardin, on voit ces gens, ils sont protestants, ils sont catholiques. Je pense aussi que dans la nature, on doit pouvoir lire un certain nombre de choses, mais je me suis jamais.
Alors les abbayes cisterciennes, c'est un peu compliqué parce que donc il y en a effectivement sur les 343 qui est en Europe, je crois que la moitié est dans des zones humides. Ouais. Mais pourquoi sont-elles dans les zones humides? C'est parce que quand les seigneurs ont donné aux cisterciens qui leur proposaient en gros la paix de la vie éternelle, enfin l'accès au paradis, ben, ils leur ont pas donné les bonnes terres, ils leur ont systématiquement donné les mauvaises terres. Ouais. Voilà. Et ce n'est qu'après que les cisterciens, d'abord, ont asséché ces zones humides, et ont développé un discours en disant ben, on s'est mis à l'écart du monde pour être plus près de Dieu. Et quand on regarde sur un plan historique, il y a une espèce d'ambivalence entre le fait qu'ils n'ont pas eu tellement de choix pour s'installer où ils voulaient, et que peut-être ils ne se seraient pas installés dans les terres les plus pourries entre 1050 et 1250, et que de l'autre côté, ben, voilà. Puisqu'ils étaient là, ils ont développé d'abord une véritable science de l'eau, hein, la clepsydre, l'eau courante, etc. Et aussi un discours en disant, comme s'opposer aux Phéniciens, et on disait un discours en disant on s'oppose au monde, au péché, à l'argent, au pouvoir, et on va dans les lieux les plus naturels et les plus isolés qui soient.
Ils ont rationalisé à posteriori.
Yoann Payet, nos gens, j'ai une question qui va un petit peu dans le même sens, qui porte sur l'analyse textuelle de la Bible. En fait, ce qu'on analyse, finalement, c'est plutôt une traduction de la Bible. Et finalement, je me posais la question de savoir dans quelle mesure l'environnement dans lequel elle a été traduite et interprétée avait influencé son interprétation. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de lire une interprétation à un moment donné d'un texte biblique? Plutôt que le texte biblique en lui-même, finalement, le regard d'une société à un moment donné sur ce texte-là, plutôt que le texte lui-même.
Oui, ça. Bon, nous, on a beaucoup travaillé sur la Bible de Jérusalem, parce que c'est la Bible c'est la traduction la plus courante, la plus utilisée. En plus, elle a le bon goût d'être téléchargeable sur Internet, c'est-à-dire qu'après, on peut la soumettre à Iramutech, à Sphinx, c'est-à-dire à tous les logiciels d'analyse textuelle, ce qui nous a fait gagner pas mal de temps. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Alors là, ça nous amène sur un autre chemin, hein, qui serait d'essayer de voir dans les différentes Bibles, en fonction des différentes traductions, est-ce que la vision correspond à la vision du moment où il y a eu la traduction, hein, ou est-ce que c'est le texte qui le met. Alors, mais par contre, il y a beaucoup de discussions. Hein, vous savez, quand je parlais tout à l'heure de la discussion autour de soumettre, dominer, etc., les discussions, elles sont dites, ben, dans la Bible, par exemple, juive, hein, le terme de soumettre, hein, c'est kedash, et kedash, ça veut dire marcher dessus. C'est encore plus fort que soumettre. Et dans ces discussions-là, il y a beaucoup de textes, hein, mais qui sont assez érudits et qui prennent les différentes traductions de la Bible, hein, pour montrer et pour construire un discours en disant pourquoi on en est là, qu'il y a d'autres visions, que c'est pas la seule, etc. Mais alors là, ça nous fait rentrer dans quelque chose qui est quand même terriblement compliqué, quoi.
Si je peux. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que finalement, ce que tu cherches, c'est pas tellement le texte en lui-même, mais la lecture qui en est faite par ceux qui y croient ou qui n'y croient pas. Par conséquent, si c'est la Bible la plus diffusée dans le monde catholique, c'est celle-là au premier chef qui t'intéresse.
C'est ça, mais puis moi ma posture, c'est pas une posture théologique, hein, c'est une posture de géographe qui essaie de comprendre en quoi tout d'un coup ben, des milieux naturels ou pas naturels comme des exploitations sont gérés de manière différente si on est croyant ou pas croyant. Enfin, vous voyez, je suis dans une espèce de recherche d'identifier des moteurs culturels qui arrivent à expliquer des décisions environnementales. Mais par contre, vous avez quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ça, qui est François Heuvé. François Heuvé, qui est le directeur de la faculté des Jésuites de Paris, qui est physicien, qui est théologien, qui a beaucoup travaillé sur ces différentes traductions de la Bible, qui a longtemps été responsable de la revue Esprit.
Ma question, elle portait plus sur une traduction, pas forcément les traductions, les différentes traductions françaises ou les différentes Bibles, mais plutôt, je prendrais un exemple, en français, je vais y arriver, il y a une traduction qui fait état du désert, alors que ce terme-là, il est traduit en américain, dans les Bibles américaines, par le wilderness, qui est vraiment pas la même chose pour le coup. Et c'est plutôt cette référence que j'avais en tête, en fait. Mais effectivement, je comprends que ça pose d'autres problèmes. Le fait est que si j'ai l'impression que si on se situe dans une seule traduction, finalement, on est peut-être en train de regarder une société plutôt qu'une spiritualité ou qu'une... Enfin, voilà, c'était plutôt le sens-là.
Bon, après, la Bible de Jérusalem, elle fait référence depuis plus d'un siècle. Hein. Donc la traduction est à peu près figée quand même. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fond, hein. Mais je trouve que c'est un autre débat, quoi. C'est on cherche autre chose en faisant ça.
J'ai aussi une question sur. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une forme de guerre d'image entre religions autour de la question de l'écologie, c'est-à-dire comment est-ce qu'il y a des postures? Est-ce qu'on pourrait justifier les postures de l'Église en disant finalement, enfin le greenwashing religieux, quoi.
Oui, c'est un petit peu ce que je vous disais. Enfin, il est évident aujourd'hui que, notamment en direction de la jeunesse, l'Église elle fait du greenwashing. Hein. Quand on voit le nombre de jeunes chrétiens, ben, d'abord les scouts, hein, au premier chef, hein, mais quand on voit le nombre de mouvements chrétiens qui sont très très engagés dans l'écologie, ben, voilà, on peut se dire à la fois c'est une préoccupation des jeunes, de l'autre côté on peut se dire que c'est peut-être un élément, enfin une stratégie d'adhésion que l'Église catholique a trouvée pour ramener à elle des jeunes qui avaient plutôt tendance à la quitter.
Et c'est présent ça dans d'autres religions ou pas?
Dans le protestantisme, ouais, oui, c'est très présent. Ouais, oui. Alors après, les religions, le bouddhisme et l'hindouisme, elles, par essence, hein, elles sont théocratiques, ouais. Puisqu'il n'y a pas l'homme ne domine pas la nature, oui. Hein, mais que l'homme est un élément de la nature, donc il y a un rapport à la nature qui est différent. Ouais. Alors l'islam, c'est très compliqué. Alors l'islam, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas un islam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Et après, il faut rentrer dans le détail. Hein. Alors vous avez de très beaux textes. Hein. Il y a une sourate, hein, qui protège les zones humides. Hein. Je n'ai plus la référence en tête, mais qui est explicitement pour protéger les sepkras, les chottes, etc., qui est souvent invoqué par les protecteurs de la nature. Et il y a un islam soufiste, hein, et des responsables soufistes de l'islam, qui sont aujourd'hui également très très engagés dans la protection de la nature. Hein, vous avez une ONG à Rocha en particulier qui accueille beaucoup de musulmans et qui sont, c'est eux en Égypte qui sont en pointe pour protéger le delta du Nil, pour protéger les milieux. Donc il y a un islam qui est un courant de l'islam qui est très très sensible à l'environnement. Mais comme l'islam, contrairement à l'Église catholique, mais comme il n'y a pas qu'un seul courant, il n'y a pas directement de texte fondateur, c'est beaucoup plus difficile de se dire l'islam a tel rapport avec la nature.
Moi, j'avais une question dans le sens où tu as présenté des textes très anciens et puis d'autres qui sont beaucoup plus récents puisque c'est les années 80 et même 90 plutôt. Et tu nous fais état d'un certain nombre de comportements qui ont, tel que tu l'as dit, en tout cas c'est actuel. Je vais poser une question donc un peu à l'envers. Pourquoi ces gens qui ont ce comportement actuel qui leur permet de mieux rendre compte de leur foi, même s'ils le font peut-être même à leur propre sans qu'ils le sachent eux-mêmes, pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt? Pourquoi ça apparaît dans les années 80 et 90 alors que tu fais référence à des textes qui ont 2000, enfin j'en sais rien, enfin plusieurs siècles d'ancienneté? Est-ce que c'est une redécouverte, c'est un changement, ou est-ce qu'il y a
Je pense que le moteur, c'est la conscience de la crise environnementale, c'est la conscience de la finitude du monde, et qui tout d'un coup, les réponses, face à cette question, ils ont interrogé leur propre culture et donc leur propre foi. Au moment où l'Église, en plus, était en train de fourbir un argumentaire pour pouvoir y répondre. Mais c'est vrai qu'avant les années 70, d'une certaine manière, l'Église, qui non seulement avait été dit soumettait la nature, mais tant qu'il n'y avait pas de crise écologique, elle avait d'une certaine manière pas à prendre parti. Ça allait bien, quoi. Voilà. Il y avait des taux de croissance formidables, on avait l'impression que la nature était indéfiniment disponible dans toutes les matières, donc... Voilà, je crois que la question, elle se pose au milieu des années 70, 73, 76, en même temps qu'arrive le développement durable, le rapport Brundtland, le rapport de Rome, etc.
Quoi. Mais il existe bien aussi des mouvements catholiques qui n'ont pas le même positionnement par rapport à la crise environnementale.
Ah oui, tout à fait, oui.
Il n'y a pas que...
Maintenant, la doctrine officielle, depuis François, elle est quand même très claire. Laudato si, lisez sur Wikipédia, ils en ont fait un bon résumé. C'est un texte d'une violence absolument inouïe contre les multinationales, contre le capitalisme financier, contre l'égoïsme de l'homme, contre l'exploitation des hommes par les hommes, je veux dire, on a l'impression de dire attaque. Hein. À la limite, je ne mettrai pas l'audat aussi. Mais on a des textes qui sont relativement proches, quand on les isole. Hein, mais il y a une critique extraordinairement violente contre le capitalisme.
Oui, et après, le discours et l'action aussi.
Voilà. Déjà, il y a le discours. C'est pas rien la parole du pape, quand même. Ouais. Une encyclique, c'est pas rien. Là, pour le coup, la doctrine officielle, elle est quand même de militer pour l'écologie et de faire en sorte que on est croyant et on respecte la nature autour de soi. Et on refuse, on va plutôt au Crédit Mutuel que à la Société Générale, on place plutôt son argent dans le développement durable que chez Total, chez les chrétiens que je fréquente dans le Loiret, ils ont eu aussi toute une politique de changement, d'investir dans le solidaire, sur un plan financier. On est relativement proche, d'ailleurs, certains animateurs en sont de l'économie sociale et solidaire. Hein. Mm-hmm. Et d'ailleurs, des responsables régionaux sont aussi des cathos engagés.
Petite remarque comme ça, mais tu connais sûrement Caldwell, l'auteur américain, oui. Erskine Caldwell, Le petit arpent du bon Dieu. Ouais. Je ne sais pas si tu connais, tu l'as lu. C'est exactement ce que tu disais, sauf que c'est dans les années 1920-30, aux États-Unis, protestants, mais c'est quand même la même idée, quoi, de garder un lieu dévolu à Dieu. Et on n'y touche pas, surtout.
Les collègues de nos gens parlaient du Wilderness, le Wilderness quand il naît avec Perkins, etc., c'est fin 19e siècle. Et il y a l'idée, c'est qu'il faut protéger de la nature, non seulement pour qu'il y ait toujours des ressources, mais aussi que l'homme trouve un lieu de spiritualité pour être près de Dieu, au début du Wilderness. Quand sont créés les premiers grands parcs, Yosemite, Sequoia, Banff, Jasper, il y a une idée aussi de spiritualité derrière. C'est pas uniquement une idée de protection de la nature dans le Wilderness. C'est Éric Glon, le géographe de Lille, qui a beaucoup travaillé sur ça. Qui est prof à Lille, qui est spécialiste un peu des milieux forestiers canadiens.
Et sinon, Tout à l'heure, tu as parlé du passage de l'homme maître à l'homme gardien, mais le gardien est quand même encore un petit peu en position supérieure par rapport à ce qu'il garde. Est-ce que tu as vu des choses qui semblent émerger, on en parlera au colloque de l'axe 3 de midi en juin prochain, sur l'intendant? Et l'intendant, il est, c'est plus celui qui dirige, c'est celui qui est au service d'eux. Et là, il y a une inversion des choses. Alors, il semblerait qu'il y ait actuellement une transformation du rapport à la nature, de l'homme à la nature ou de l'action à la nature, vers l'intendance, mais est-ce que tu as pu le constater ou est-ce que tu penses que ça va arriver dans les populations que tu examines ou dans les textes qui surviennent?
J'ai pas vu apparaître le terme, mais peut-être que peut-être qu'il m'a pas sauté aux yeux. Peut-être qu'effectivement, comme j'étais pas sensible au glissement gardien-intendant, qu'effectivement n'a pas le même sens, quoi. Et donc, il faudrait peut-être que je reprenne les textes, voir s'il n'y a pas ce terme qui réapparaît. Ce serait une vision anthropocentrique, mais encore plus douce encore que plus celle douce, de gardien.
Avec un vrai renversement. Ouais. Quelqu'un, en juin prochain, là, au colloque, va parler de ça, justement. D'autres questions? Nos gens, vous êtes là?
Oui. Richard Chevalier, c'est un peu flippant quand même votre affaire, parce que finalement, nous qui faisons de la recherche en écologie, on passe le faire librement. Donc là, vous êtes en train de nous dire que, suivant qu'on est catholique ou pas, on peut interpréter les données de façon différente. Vous pensez que ça puisse exister ou pas, ou que
Moi, je ne dis pas qu'on les interprète de manière différente. Je dis simplement que le fait d'être engagé dans sa foi fait qu'on n'a pas le même rôle dans la cité et que donc on va avoir une intervention sur les milieux naturels qui est différente. Je ne pense pas qu'un catholique il va interpréter les... S'il faut qu'il fasse un relevé de végétation, bon, il aura ses coefficients d'abondance-dominance... sa phytosociologie en tête et il fera le même constat qu'il soit catho ou pas catho. Mais après peut-être que chez lui, dans son jardin, dans son jardin ou dans sa propriété, il gérera pas la nature de la même manière. Ah.
Non, ce qui est flippant, comme tu disais, c'est le fait qu'on soit quand même en grande partie, et peut-être totalement, mais ça j'en sais rien et on ne le saura jamais, déterminé. Déterminé par des caractéristiques socio-professionnelles, socio-culturelles ou autres. Hein. Certains vont jusqu'à dire qu'on ne fait que ce qu'on ne peut faire, parce qu'on n'a pas le choix. Mais bon, là, on sort du cadre scientifique, de toute façon. Mais c'est flippant, effectivement.
Ah oui. Et puis, il y a des choses, moi, qui m'ont beaucoup étonné, parce que dans... Bon, je pense à la... à une jeune femme qui a une petite quarantaine d'années, qui est ingénieure agronome, qui anime le réseau écologie et chrétien du Loiret, hein, qui est brillante, sympathique, mais finalement, alors elle n'a plus de voiture, elle va à pied, elle court qu'une malheureuse avec ses quatre enfants pour en déposer un, etc. Et finalement, j'en parlais avec elle, j'ai dit, mais est-ce que tu crois pas qu'il y a une espèce de truc d'expiation qui rejoint finalement, je veux dire, quelque chose qui est très... Parce que c'est des gens qui souffrent, et moi je lui dis, mais écoute, arrête, achète-toi une voiture électrique, quoi. Et je veux dire, à quoi ça sert que tu te fatigues comme ça, voilà. Et j'ai l'impression, vous voyez, qu'il y a une espèce de rapport, enfin que je ne suis pas arrivé, puis pour le coup ça m'intéresse moins parce que je ne travaille pas sur ça, mais qu'il y a une espèce de rapport à la souffrance, hein, qui me paraît être quand même très catholique, dans le fait de vouloir respecter à la lettre et que son empreinte carbone, son intervention dans le milieu naturel soit, etc. Et je me demande finalement, mais ça serait plutôt à des théologiens de creuser la question, vous voyez, s'il n'y a pas une espèce de rapport entre une espèce d'éthique, enfin d'attirance pour la souffrance, pour la dureté des temps et cette attirance qu'il peut y avoir chez pas mal de cathos pour un strict respect de l'écologie. Quoi.
Mais est-ce qu'à ce moment-là, ça ne serait pas le passage d'une religion catholique qui est... Je crois, je ne suis pas catho, enfin bon, culturellement, comme un peu comme beaucoup de gens, mais c'est tout, d'une éthique de la conviction, de la croyance et de la conviction, vers une éthique de la responsabilité, y compris l'hyper-responsabilité chez la jeune personne dont tu parles. Il y aurait un basculement en termes éthiques à ce moment-là.
Oui, je pense. Mais qui est motivé par la foi, enfin qui trouve dans la foi un corpus explicatif.
Oui. D'accord. Oui, les deux sont en boîte.
Les deux sont pas imbriqués, mais emboîtés.
Quand même. Ouais.
On est effectivement dans un discours de responsabilisation, mais qui trouve une cohérence dans le discours écologique de l'Église.
Alors que la responsabilité, c'est un peu la chasse gardée des protestants par rapport aux catholiques. Donc il y a peut-être une recomposition là-dessus. Mais très souterraine, en fait.
C'est très œcuménique, hein, aussi. L'engagement, enfin, même encore aujourd'hui, hein, le tout début de l'engagement de l'Église catholique en faveur de l'écologie, c'est Pax Christi, c'est des grandes réunions avec les pionniers, c'est les orthodoxes, ensuite suivis par les protestants, et après les catholiques en dernier. Quand on fait brutalement et rapidement historique. Ouais.
Question. Alexia, une question.
Merci beaucoup pour.
Merci beaucoup à vous d'être resté avec nous.